Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Bonjour à tous et nous allons partir sur ce quatrième cours qui va cette fois, je dirais, être changé par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire on ne va plus voir des structures, mais on va rentrer finalement au cœur de la batterie et voir ce qui se passe. C'est-à-dire on va regarder l'électrode négative qu'on va pouvoir mettre en ces batteries tout solides. Alors la dernière fois, eh bien, on a fini le broyage, si je peux dire, sur tous les conducteurs ioniques qui ont été synthétisés ou qui sont découverts aujourd'hui parmi les oxydes, les argyrodutes, les sulfures et les halogénures. Et on avait montré finalement qu'à la fin, eh bien, on avait, je dirais, une panoplie de matériaux ayant des conductivités ioniques supérieures à 10-3 siemens par centimètre, critères aux figures de mérite qu'on avait établies comme, je dirais, limite. Alors la question qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir que finalement, avoir ces matériaux, si je peux dire, ça ne sert pas tellement à grand-chose, car il y a d'autres problématiques. Et cette autre problématique, c'est que ces matériaux, eh bien, il va falloir les apparier pour faire des batteries tout solides. C'est-à-dire qu'il va falloir les coupler avec une électrode négative, qui va être une électrode très réductrice, d'où il va y avoir des problèmes d'interface, des problèmes de décomposition aux interfaces, et ainsi de suite. Il va falloir faire la même chose du côté de l'électrode positive. Il y a tous les aspects chimio-mécaniques, dont Christelle vous avait parlé lors de son premier cours, la formation de dendrites, et ainsi de suite. D'où, comme vous pouvez le voir, eh bien, il va y avoir pas mal de difficultés à faire ces batteries tout solides. D'où, on va essayer de voir comment on va pouvoir ajuster toutes ces propriétés électrochimiques, chimiques ou chimio-mécaniques, eh bien, de façon à maîtriser l'interface. Et vous allez voir que, comme dans le cas de la technologie liquide lithium-ion, bien, l'interface est toujours la meilleure problématique, c'est la plus importante et c'est celle que l'on comprend le moins. D'où, que se passe-t-il et quelle est la problématique à ces interfaces? Eh bien, la problématique à ces interfaces, comme dans le cas du liquide, eh bien, elle peut se comprendre à partir de ce diagramme thermodynamique de la batterie, dans lequel vous avez ici, finalement, la domaine de stabilité de l'électrolyte, qui, dans le cas de l'électrolyte liquide, est déterminé par ses directement état, LUMO ou HOMO, qui, dans le cas d'un solide, eh bien, va être finalement la bande de conduction et la bande de valence. Et il va falloir trouver des matériaux qui seront thermodynamiquement instables s'ils se trouvent directement dans ce gap. Mais si on prend, par exemple, les sulfures, il va avoir des gaps de 2,3 électronvolts, ce qui ne va pas être suffisant. Et en effet, ce qui se passe, eh bien, vous voyez que les électrolytes qu'on considère actuellement, eh bien, lorsque je vais maintenant mettre finalement mes matériaux d'électrode positive en jaune ou ceux d'électrode négative en rouge, et vous apercevez qu'ils tombent tous en dehors de cette fenêtre thermodynamique. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir directement des réactions à l'électrode positive et à l'électrode négative, des réactions d'oxydation et de réduction, qui vont tout simplement conduire à la formation de produits de dégradation, voire des interfaces, ce qu'on appelle la SEI. D'où, eh bien, on va voir que ces interfaces, s'ils sont primordiales, elles peuvent être de différentes qualités selon la nature des électrolytes. Il peut y avoir des interfaces qui sont thermodynamiquement stables, comme dans le cas des oxydes, les grenats, dans lesquels le potentiel dans ce cas sera stable vis-à-vis du lithium, et on a des interfaces que je dirais relativement propres. Et ensuite, dans la plupart des cas, eh bien, on a des interfaces qui sont solides, mais thermodynamiquement instables. Et là, il va y avoir deux catégories d'interfaces. L'une dans laquelle eh bien, on va finalement former une réaction de décomposition, notamment avec les sulfures ou les thiophosphates, comme je vous ai mentionné auparavant, où là, finalement, on va avoir une interface, mais qui va être autolimitante, c'est-à-dire une passivation. Par contre, dans certains cas, notamment dans le cas de certains électrolytes qui contiennent des éléments de transition réducteurs, comme on a vu, titane plus 4, titane plus 3, eh bien, on aura dans ce cas eh bien, des zones qu'on appelle des conducteurs mixtes, ioniques et électroniques. Eh bien, dans ce cas, effectivement, on ne pourra pas contrôler ces interfaces. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il va falloir comprendre, jouer avec la cinétique de ces réactions de décomposition de façon à faire des batteries tout solides qui fonctionnent. Alors, cette interface, eh bien, la première qu'on va considérer, c'est cette fameuse interface avec le lithium, lithium métallique. Celle-ci, eh bien, les sources, bien sûr, de dendrite, comme mentionné ici, mais il y a beaucoup d'autres difficultés. Il y a notamment le fluage du lithium, il y a également de la porosité, et on verra par la suite, il y a des problèmes de contact électronique, et ainsi de suite, avec des réactions de décomposition. D'où, on a une dégradation mécanique, qui est mentionnée ici, mais on a également des dégradations, des instabilités interfaces, qui va être dépendre de l'état de surface du lithium, c'est-à-dire les grains et autre chose, la nucléation et la croissance des dendrites qu'on va voir, et enfin des réactions chimiques parasites qui sont relativement conséquentes. Alors la question, si vous voulez, à l'époque, lorsque les batteries de lithium solides sont arrivées, on peut souvent se demander, est-ce que finalement un électrolyte solide, c'est-à-dire que vous allez mettre une barrière entre l'électrode positive et une électrode négative, bien, va être suffisante pour empêcher ce problème de dendrite. Il y avait un grand espoir qui était finalement de contourner la problématique qu'on avait dans le cas du lithium, où là vous savez très bien que dans le cas du liquide, eh bien, il y a systématiquement, lorsque le lithium métalle, la formation de ces dendrites. Eh bien, on comptait tout simplement qu'il en soit différent dans le cas à Camon. D'où, dans ce cas, eh bien, si on réutilise des électrolytes tout solides, comme les grenades par exemple, eh bien, on s'aperçoit finalement que là aussi il va y avoir des problèmes de dendrites, comme vous pouvez voir ici lors d'une batterie symétrique, dans laquelle du lithium métallique avec, dans ce cas, un grenade qui est séparé, on s'aperçoit, lorsqu'on polarise, eh bien, on va avoir là aussi formation de dendrites, et on le voit très bien par des photos optiques, dans lesquelles on voit, lors du dépôt du lithium, la nucléation de la dendrite, on voit ensuite sa propagation, et finalement, le court-circuit qu'elle va engendrer. Alors, le mécanisme qui va expliquer tout ça, eh bien, il peut se résumer, comme indiqué ici, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord avoir, et on verra pourquoi, à la surface, eh bien, il va y avoir une certaine porosité. Ensuite, eh bien, lorsqu'on va déposer le lithium, comme vous pouvez voir ici, on va modifier la répartition du courant. On va avoir des pointes de courant à cet endroit, et c'est là où les dendrites vont pousser. Ces dendrites vont pousser, vont ensuite directement, dans le cas des grenats, eh bien, ils vont se propager aux joints de grains pour conduire à ces filaments de dendrites et qui peuvent par la suite fondre. Alors là aussi, eh bien, on peut, je dirais, retarder ces courts-circuits en faisant, dans ce cas, eh bien, des différentes méthodes de courant pulsé qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir finalement avoir des temps de formation de dendrites beaucoup plus longs. On pourra avoir des systèmes beaucoup plus, je dirais, résistants vis-à-vis de la formation de ces dendrites. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Eh bien, pour ce faire, il va falloir jouer sur la lithophilie directement de la surface, où on va pouvoir, dans ce cas, essayer de remplacer la surface de lithium par une surface plus mouillable, et on verra par la suite comment on peut faire ça. Alors on peut faire cela eh bien, en jouant sur différents matériaux, différents additifs, notamment en utilisant des alliages, comme le silicium ou l'aluminium, qui dans ce compte-là vont servir de couche tampon, et qui vont permettre, comme on peut voir ici, eh bien, de mouiller, d'avoir une meilleure mouillabilité de cette interface. Cette meilleure mouillabilité eh bien, elle va se traduire par une résistance de contact ou une résistance interface moindre, et que l'on peut tout simplement déterminer, en regardant par ici, ces mesures d'impédance qui montrent effectivement que lorsqu'on va tout simplement d'une surface lithium, LLZO lithium, par rapport à une surface dans laquelle on a tout simplement intégré, je dirais, une couche de lithium XSI, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une diminution considérable en résistance, c'est-à-dire une meilleure interface, un meilleur transport, et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, on va regarder finalement ce mécanisme de croissance dendritique, voir comment il apparaît, quelles en sont les origines, et aussi comment pouvoir les détecter ou les anticiper. Alors l'origine, finalement, de ce problème d'interface vient d'être reliée à ce qu'on connaît de façon classique. Si vous mettez un conducteur ionique avec un métal, dans ce cas, l'argent et l'iodure d'argent qui est un très bon conducteur ionique, eh bien, à l'interface, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez appliquer un courant, vous allez avoir des ions qui vont tout simplement aller, bien sûr, vers l'électrode positive, qui vont créer des ions, des lacunes, et ces lacunes devront être, bien sûr, remplies par des atomes d'argent. Et là, vous apercevez qu'il va y avoir, finalement, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une diffusion égale dans l'électrolyte solide et dans le matériau massif, l'argent. Et la difficulté, c'est que, effectivement, on n'a pas du tout ces diffusions égales. Et si on regarde dans les cas qui nous intéressent, c'est-à-dire le cas des batteries au sodium ou voire au lithium, si je regarde dans le cas du sodium, eh bien voilà la diffusivité du sodium dans l'aluminium bêta, voyez, et voilà la diffusivité directement, l'autodiffusion du sodium. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a un facteur 10. Si je regarde dans le cas du lithium, je prends dans ce cas, toujours pareil, lithium dans LZZO, et l'autodiffusion du lithium, vous apercevez qu'en ce cas, il y a un facteur de 100. Donc ça veut dire que là, on a une difficulté à, tout simplement, à avoir une diffusivité égale dans le massif et dans l'électrolyte solide. Et bien sûr, lorsqu'on monte, on va avoir des électrolytes qui auront de meilleures conductivités ioniques, de meilleure diffusivité, mais on ne va pas dans le bon sens. D'où l'importance par la suite de mettre des couches tampons. Alors la question, c'est vraiment en raison de cette diffusivité, et est-ce que c'est la raison seule de cela? Eh bien, pour ce faire, il y a eu des travaux récents, enfin, je dirais il y a 2 ou 3 ans, dans lesquels des chercheurs ont tout simplement essayé de comprendre ce qui se passait au niveau de cette migration de lithium entre le massif et l'électrolyte solide. Et cela a été fait grâce à des mesures 2 ou 3 électrodes. Je vais vous montrer ici des mesures 2 électrodes, dans lesquelles, dans ce cas, eh bien, ce que vous regardez, c'est finalement une batterie tout solide, ou plusieurs batteries tout solides, dans lesquelles on va commencer une pression de 3,2 MPa et on va abaisser la pression sous un courant de 0,4 mA par centimètre carré. Et on s'aperçoit que lorsqu'on va atteindre la pression de 2 MPa, on a dans ce cas une augmentation du potentiel qui indique qu'on a directement apparition de dendrites. Bien, cela arrive tout simplement à ce que j'appellerais la pression critique, qui est de dire tout simplement qu'à 2 bars, pour 0,4 mA par centimètre carré, eh bien, j'ai la vitesse de diffusion dans l'électrolyte solide et dans le métal qui est la même. Et si maintenant je suis à plus basse pression, eh bien, je ne peux plus maintenant remplir aussi rapidement les pores que j'ai directement créés en extrayant du lithium. Ça, c'est des mesures qui se peuvent faire avec 2 électrodes. Maintenant, si on fait les mêmes mesures avec 3 électrodes, où là, on va tout simplement prendre ou suivre le potentiel de votre électrode dans laquelle il va y avoir le retrait de lithium et le dépôt de lithium. Et vous apercevez que lorsque l'on fait cela, eh bien, vous allez avoir une polarisation, regardez, seulement dans le cas où on va retirer le lithium. Pourquoi? Parce qu'on retire le lithium, vous créez cette porosité et vous avez des modifications de contact à l'interface. D'où cela montre finalement l'importance, la pression qui va, je dirais, influencer fortement le flux d'ions qui va directement traverser cette barrière. Alors ces résultats ont été, je dirais, dupliqués, je crois 3 mois après, par le groupe de Peter Booth, qui a fait une manip totalement identique, mais pas sur un électrolyte de type LLZO, mais plutôt sur un électrolyte de type argyrodite. Vous voyez ici, la cellule avait de nouveau une cellule symétrique avec une électrode de référence. Et là, ce qu'on regarde, mais c'est tout simplement, vous allez tout simplement retirer le lithium, vous voyez ici, couronne noire, le remettre, parfait, et ensuite, au fur et à mesure que vous allez retirer du lithium, eh bien, vous avez ce potentiel qui va augmenter. Ça veut dire que dans ce cas, une fois de plus, on est en train de créer une porosité à cette interface. Donc maintenant, si je garde le même courant et j'augmente la pression, on va retomber finalement dans la manip que je vous ai mentionnée auparavant, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, le dépôt et le retrait du lithium à 7 MPa sous 1 mA par centimètre carré se fait de façon parfaite après 5 cycles. Donc maintenant, je vais rechanger maintenant pas la pression, mais je vais augmenter le courant, d'où on va se retrouver dans des positions identiques, et une fois de plus, vous apercevez que dans ce cas, eh bien, on a apparition de dendrites. Donc voilà, si vous voulez, la problématique, c'est dendrite. Alors la question, c'est finalement, comment on peut l'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut faire ça de façon relativement schématique. Vous apercevez ici une interface dans laquelle je vais tout simplement faire plusieurs retraits. Vous apercevez ici tout simplement la création d'une porosité due au fait finalement que le lithium ne bouge pas assez rapidement pour aller remplir ses cavités. Ensuite, au dépôt suivant, vous avez un point trip dans lequel vous avez un remplissage latéral de lithium avec cependant quelques dendrites qui ont poussé, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez même également, vous occluez certaines parties dans le matériau, pour arriver finalement à cette situation finale. Donc ce qui est important, eh bien, c'est de voir finalement c'est quoi qui gouverne cette migration de lithium. Mais il y a 2 paramètres qui sont importants. Celui qu'on connaissait depuis longtemps, qui était finalement le paramètre associé à la diffusion, et également le paramètre associé finalement au fluage de lithium. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre de la pression, vous allez aider, favoriser ce fluage de lithium. D'où tout cela, eh bien, finalement, revient à considérer que lorsqu'on a ces problèmes de retrait de dépôt de lithium, il va y avoir 2 courants critiques et voir comment ces courants critiques vont directement être fonction de la pression. Et tout cela nous montre que finalement, faire cycler une batterie avec un lithium métallique à une pression de 0,5 MPa ou plus bas est relativement impossible. Alors la question qui se pose finalement, ce courant critique, comment on va le mesurer? Bien, ce courant critique, on peut le mesurer de différentes façons. La façon qui est bien connue est tout simplement de créer ou de faire ou d'assembler une batterie symétrique en ayant la même surface d'électrode de lithium. Et des expériences que l'on faisait il y a cela 20 ans, d'ailleurs, qui avaient été développées à l'école polytechnique, c'était cette expérience très simple dans laquelle on mettait ces deux électrodes et on appliquait tout simplement un courant et on regardait l'évolution du potentiel en fonction du temps. Il y avait un courant unidimensionnel et on a déterminé un temps de court-circuit. Et là, on avait finalement une densité de courant. Mais ça, si vous voulez, ça ne prenait pas en compte la pression à l'époque, ça c'est des mesures qui ont été faites sur des batteries liquides, mais aujourd'hui, on a une situation relativement différente puisqu'on a des batteries tout solides dans laquelle il va y avoir la pression qui va jouer un rôle important. Alors aujourd'hui, la grande mode, c'est tout simplement de faire ces batteries, comme indiqué ici, dans lesquelles vous allez faire une électrode symétrique et appliquer des pulses au courant, comme mentionné ici, avec côté positif, côté négatif, ainsi de suite. Si on fait ça, eh bien, effectivement, on arrive à le cas des courants critiques. Mais ces courants critiques, finalement, ils n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens parce que si on regarde la littérature, dans tous les papiers qui sont rapportés, voilà tout simplement les courants critiques, c'est-à-dire la susceptibilité de ces électrolytes à laisser les dendrites se propager, mais vous voyez ici que vous avez des courants critiques qui changent d'un facteur de 40 à 50. D'où, définitivement, il y a un problème avec la méthode, dû au fait que les protocoles sont totalement différents, la pression n'est pas prise en considération, il y a également les états de surface, et ainsi de suite. D'où la question, finalement, c'est comment déterminer correctement ces courants critiques. Et pour ce faire, eh bien, il faut voir que lorsqu'on fait ces mesures, eh bien, on va avoir finalement la somme de deux composantes. La composante associée à la porosité à l'interface que je vais créer lorsque je vais retirer du lithium, plus une composante associée à la pression qui va être le fluage du lithium. D'où une, tout simplement, courant critique associé à l'interface et un courant critique associé à l'électrolyte. Alors pour faire ces mesures, eh bien, c'est des manips qui sont récemment, expliquées et publiées par Jürgen Janek, où il montre qu'il y a deux types de mesures à effectuer pour avoir finalement ou décomposer ces composantes. La première, c'est tout simplement, si je regarde maintenant ce qui se passe dans mon électrolyte, eh bien, je vais utiliser tout simplement, dans ce cas, les hautes pressions, quand je dis hautes pressions, 5 mégapascales, où là, je suis sûr que la porosité, je vais la fermer. Et je fais des mesures unidimensionnelles qui reviennent avec, dans ce cas, des étapes, et je vais avoir mon temps, mon courant critique, un temps de court-circuit, formation de dendrites. Maintenant, si je veux avoir directement avoir accès à cette porosité, à cette perte de contact électrique, eh bien, je vais faire des manips à beaucoup plus faible pression, et je vais tout simplement appliquer mon courant constant, comme indiqué ici. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une augmentation de potentiel qui n'est pas du tout directement associée à une dendrite, mais tout simplement associée à une perte de contact à l'interface. D'où on peut ainsi déterminer correctement sur différents systèmes quelle va être la contribution de l'interface, de la porosité interface par soi-même, ainsi que tout simplement la résistivité de l'électrolyte vis-à-vis des dendrites. Et ça, je dirais, c'est des manips qu'on doit faire dans le futur de façon à comprendre correctement ce qui se passe lorsqu'on assemble ces batteries tout solides. D'où, voilà, je dirais, une information très importante pour faire cela. Alors, la question qui se pose, c'est que je vous ai raconté beaucoup de choses sur le lithium, mais est-ce que le lithium est l'électrode idéale pour, tout simplement, faire des batteries tout solides? Eh bien, malheureusement, non, à court terme. Parce qu'une fois de plus, je le répète, je vous ai mentionné la problématique du lithium, qui était sa très grande réactivité, d'où sa pouvoir réducteur, mais là aussi, pour faire des batteries au lithium, il faut utiliser de faibles pressions. Et aujourd'hui, dans le tout solide, eh bien, pour assurer les contacts entre les différents composants, on veut des pressions relativement élevées de 50 à 100 mégapascales. D'où, par conséquent, eh bien, on aura un problème de court-circuit, et ainsi de suite. D'où, de façon à contourner tout cela, eh bien, on va essayer de trouver maintenant une autre alternative, qui est une contre-électrode, ayant un faible mais constant potentiel redox. On va utiliser dans ce cas un matériau d'insertion biphasé, puisqu'en ce cas, le potentiel restera constant. Et ce qui apparaît relativement intéressant, c'est utiliser des alliages, et notamment des réactions des alliages, avec les composés, et notamment la phase lithium-X, indium-Y. Dont les propriétés, je dirais, chimio-mécaniques sont indiquées ici, avec les modules d'ion indiqués pour directement le cas de cette phase lithium-indium et celle du lithium. D'où, ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est les différents types d'électrodes qu'on va utiliser. Alors on va voir l'utilisation d'alliage, l'utilisation du silicium plutôt que du graphite, on va voir l'utilisation de composites silicium-carbone, et on va également voir l'utilisation de rien, c'est-à-dire des systèmes sans anode. Alors tout d'abord, le système lithium-indium. Alors ce système lithium-indium, pourquoi il est intéressant? Il est intéressant, tout d'abord, parce que l'indium a une bonne conductivité, c'est un métal qui est très ductile et qui a une forte affinité avec le lithium pour faire des réactions d'alliage. Vous avez ici le diagramme de phase. Vous voyez qu'en ce cas, j'ai un nombre considérable de phases. Et vous avez un domaine de solution solide, indium-lithium à la composition 50%, mais vous n'avez pas directement dans ce cas de technique. Alors si maintenant, on va directement se placer à température ambiante, c'est-à-dire que je vais être à peu près ici, et je vais balayer mon diagramme directement binaire. Et si je balade ce diagramme binaire, qu'est-ce qu'on aperçoit ? J'ai ce domaine qui est un domaine biphasé, d'où ce domaine biphasé est génial, puisque dans ce compte-là, mon potentiel va rester constant. Et ensuite, je commence directement à aller dans ces différentes phases avec des chutes de potentiel comme indiqué ici. D'où par conséquent, ça n'est pas terrible pour faire une contre-électrode, une électrode négative pour batterie tout solide. Si je regarde maintenant plus en détail ces différents domaines, eh bien, je fais des mesures de JTT, où dans ce cas, on s'aperçoit qu'on est sur le plateau, un système biphasé, d'où il va y avoir certainement des limitations cinétiques qui sont autour de 4 millivolts à 10 millivolts pour les courants, pour les temps mentionnés ici. Et ensuite, vous voyez que lorsqu'on va sur les différentes phases, eh bien, on a une augmentation de cette polarisation qui veut dire qu'on ne veut pas directement aller se promener sur ces phases. Alors ensuite, eh bien, on va pouvoir faire finalement voir quel va être le comportement de ces systèmes vis-à-vis des dendrites. Alors bien que je vous ai dit que ce n'était pas la meilleure façon de faire, je vais l'utiliser parce que dans la littérature, vous ne trouvez que ce genre de mesures. Et vous apercevez ici que finalement, lorsque je vais prendre mon système qui va être à 44% de lithium, c'est-à-dire que je suis ici, eh bien, je vais avoir dans ce cas une très bonne performance en termes de cyclabilité avec très peu de risques de former dendrites. Alors que si je suis ici dans des systèmes dans lesquels je vais avoir 74% de lithium, eh bien, vous voyez qu'ici, je vais avoir formé dendrites. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, voilà directement les performances qu'on peut obtenir sur des systèmes ainsi. Vous avez en courbe de cyclage. Dans ce cas, vous pouvez voir qu'on obtient aux alentours de 900 cycles. Et mais il y a également des croissances de dendrites à l'intérieur de cet alliage. Mais une différence essentielle entre indium-lithium et le lithium est expliquée ici par ces schématiques. En haut, vous avez dans ce cas l'interface lithium avec toujours une couche, d'interfaciale. Et vous voyez qu'en ce cas, les dendrites vont tout simplement pousser de façon verticale et à la surface directement de lithium. Si maintenant je prends l'alliage indium-lithium, dont, regardez ici, la diffusivité est de 10-7 comparé à 10-10 que j'ai mentionné auparavant, vous voyez qu'en ce cas, d'abord, c'est ce qui se passe. N'oubliez pas que vous avez un système LPS en contact avec indium-lithium. Vous allez faire une interface IN2S3 qui va être une interface relativement dense et qui va faire en sorte que dans ce cas, bien les dendrites, si elles poussent, elles vont se propager de façon latérale, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la mousse de lithium dans ces systèmes. Donc voilà, si vous voulez, le système directement qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans les laboratoires avec comme électrode négative. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment fabriquer l'électrode pour avoir des performances adéquates. Bien, là aussi, il y a eu, peut-être des centaines de papiers pour comprendre quelle est la meilleure situation pour, au niveau pratique, de faire cette telle électrode. Eh bien, vous voyez ici, il y a différentes solutions. Alors, la solution qu'on a employée pendant longtemps dans le laboratoire a été tout simplement de prendre de l'indium, une feuille de lithium, de mettre de la pression et d'avoir notre électrode électro-lithium-indium. Ensuite, eh bien, il y a eu des modifications dans lesquelles maintenant on va utiliser de la poudre et former l'électrode. Et ensuite, eh bien, la dernière est dans le cas où on va tout simplement utiliser lithium, indium et électrolyte solide. Et on va faire dans ce cas une composite et c'est dans ce cas que finalement on va avoir les meilleures performances. Tout ça, c'est le résultat, tiré de la littérature où aujourd'hui tout le monde s'accorde bien à dire, à reconnaître que la meilleure façon de fabriquer une électrode indium-lithium est la méthode indiquée ici, dans laquelle vous pouvez utiliser, je vous mets la formule ici, 40% atomique de lithium dans votre mélange lithium-indium, que vous couplez ensuite avec 40% d'argirodite ou d'électrolyte que vous utilisez. Donc voilà, si vous voulez, l'électrode de lithium-indium qu'on utilise. Alors ensuite, je vous ai montré la complexité de l'électrode de lithium. Je vous ai montré que finalement, une alternative était lithium-indium, mais à ce compte-là, on perd en potentiel et on perd, bien sûr, en capacité. D'où, finalement, l'intérêt s'est porté sur la possibilité d'utiliser les électrodes de silicium. Alors, les électrodes de silicium, pourquoi ? Eh bien, comme dans le cas du liquide, bien sûr, le silicium est très intéressant, car vous pouvez voir ici qu'il a la même capacité à plus ou moins 10 mAh ou 100 mAh que le cas du lithium. Il a un potentiel de réduction qui, là aussi, est relativement voisin de 0, 0,3 volts. Et également, c'est certainement un des matériaux les plus abondants. D'où, par conséquent, effectivement, le lithium est très attrayant. Encore plus attrayant si on regarde les densités d'énergie que l'on peut obtenir. En effet, si je regarde ce qui se passe dans le cas des différents systèmes, vous voyez aujourd'hui, on est sur ce système au carbone. Okay. Si maintenant j'utilise du silicium ou un électrode de lithium, on peut dans ce cas avoir des densités d'énergie supérieures à 400 watt-hours par kilo. Et ensuite, et on peut aller, on verra à la fin de ce cours, puis sur des systèmes sans électrode négative pour obtenir des capacités dépassant les 500 watt-hours par kilogramme. Donc voilà, si vous voulez, ce système. Alors ce système, bien sûr, eh bien, on a essuyé des plâtres pendant plus de 20 ans dans le cas des batteries liquides. Pour la bonne et simple raison, eh bien, c'est qu'on a un diagramme de phase qui est relativement compliqué, mais plus important, c'est qu'on peut arriver à mettre jusqu'à 3,3 ou 3,4 lithium, je dirais, par atome de silicium, ce qui fait que ça va créer une augmentation de volume, qui est une augmentation de volume aux alentours de 300%. Et ça, c'est vraiment la difficulté. Alors, cette augmentation de volume, eh bien, qu'est-ce que le fait ? Elle va, dans ce cas, eh bien, engendrer les craquelures de particules, c'est-à-dire, dans ce cas, la désintégration des particules pour conduire à des pertes de contact. Ainsi de suite. Tout ça, si vous voulez, c'est la problématique sur laquelle on a travaillé depuis plus de 20 ans, dans le cas des technologies liquides et lithium-ion, pour, finalement, arriver à avoir des solutions partielles. D'où, où est-ce qu'on en est ? Quel est notre état de compréhension aujourd'hui ? Eh bien, l'état de compréhension dans le cas du liquide est indiqué ici. C'est-à-dire qu'on a tout simplement rencontré des problèmes au niveau électronique, transport ionique. Au niveau de la chémiomécanique, vous avez une augmentation de 300% en volume. Et également au niveau de la dégradation d'interface. Maintenant, si je vais au tout solide, bien, la situation est guère plus réjouissante. Car là, on va encore avoir des problématiques plus importantes. Il va y avoir la réactivité à l'interface, le transfert d'électrons et d'ions à l'interface électrolyte solide silicium, les problèmes d'isolation électrique et les problèmes également de broyage qui, maintenant, dans un système tout solide, vont être encore plus drastiques que dans le cas d'un liquide. Et enfin, et certainement le plus important, c'est que dans le cas du liquide, eh bien, on avait un broyage, mais on avait un électrolyte liquide qui pouvait directement s'insérer dans toutes les lacunes ou dans toutes les porosités pour apporter le lithium nécessaire. Maintenant, dans le cas du tout solide, eh bien, si vous voulez avoir ce contact, il va falloir mettre des pressions gigantesques, c'est-à-dire des pressions allant de 400 à 600 mégapascales. D'où voilà, si vous voulez, les problématiques qu'aujourd'hui, on va tout simplement regarder, essayer de comprendre. Alors, cela étant dit, eh bien, une fois de plus, on va se servir, on va essayer de comprendre ce qu'on avait fait dans le cas du liquide. Et dans le cas du liquide, eh bien, si cette courbe qui est relativement importante, car elle a dicté un peu les recherches dans le domaine, où je porte ici la capacité, finalement, en fonction du taux de silicium. Et ce qui est très intéressant, eh bien, si vous apercevez ici que on a l'augmentation de capacité qui est relativement conséquente lorsque je vais mettre jusqu'à 10 à 15%. Par contre, l'expansion est relativement faible. Ce qui fait qu'on a finalement deux pentes. Une pente, si je peux dire, il vaut mieux pas s'aventurer, car dans ce cas, on a une augmentation gigantesque du volume et ça ne servira à rien pour très faire augmenter la capacité. Par contre, ici, c'est un domaine intéressant et c'est le domaine qui a été approfondi, raison pour laquelle aujourd'hui, les batteries lithium-ion avec des électrodes négatives à 10 ou 15% de silicium deviennent des produits commerciaux et vous pouvez trouver ça directement dans le commerce. Alors, bien sûr, toute cette connaissance eh bien, va s'appliquer au tout solide. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment ça s'est fait. Alors, on va s'appliquer tout solide. Alors, vous avez ici des exemples où là, vous avez une batterie tout solide dans laquelle on va utiliser une électrode de graphite avec 10 à 15%, 10% de silicium, 10% de PBDF, et on a une électrode à laquelle on appelle une électrode tout simplement qui va être sans diffusion électrode, pour que dans ce cas, on n'a pas tout simplement, on n'ajoute pas dans ce cas de conducteur solide électronique, de conducteur ionique, excusez-moi. Et grâce à cela, grâce à des pressions relativement conséquentes d'assemblage, on va jusqu'à 550 MPa pour assembler ces systèmes. Et ensuite, on peut, effectivement, à une température de 60 degrés C, eh bien, faire fonctionner de tels systèmes. Tout ça, c'est des manips qui ont été réalisées, je dirais, il y a 2 ou 3 ans. Ensuite, au point de vue un peu plus pratique, il y a également la possibilité de réaliser des cellules pouch, comme indiqué ici, où là, c'est une étude dans laquelle, finalement, on va prendre le collecteur de courant, déposer le silicium en rouge et au-dessus le dépôt de l'électrolyte solide. On fait la même chose du côté électrode positive avec un NMC au-dessus duquel on va mettre un dépôt une fois de plus de l'électrolyte solide. Ensuite, on assemble les deux parties comme indiqué ici sous des pressions à 390 MPa dont les compositions sont indiquées ici. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a bien sûr, électrolyte des composites avec l'électrolyte solide du carbone et également, dans ce cas, du polyisobutène. Et tout cela, on va l'assembler. Voilà directement la cellule qui a été assemblée avec une fois de plus de performances qui sont indiquées ici. Alors là aussi, ça a été assemblé à 390 MPa, mais regardez, bon, les taux de charge ne sont pas importants. Cependant, eh bien, tout ça a été cyclé à 1 MPa. Alors bien sûr, on peut questionner les capacités qui sont relativement faibles, puisqu'on est aux alentours de 100 mAh par gramme, alors qu'on s'attendrait dans le cas du tout solide, avec du NMC à 150 ou 160. Tout ça, c'est des travaux qui ont été faits sur ces électrodes, eh bien, je dirais, de silicium carbone. Ensuite, eh bien, dans un travail un peu innovant, eh bien, je mentionnerai celui-ci, dans lequel, là aussi, eh bien, je dirais la partie innovante vient du fait que dans ce cas, eh bien, on va utiliser un électrolyte solide dans tout le système, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va être introduit, où on va tout simplement utiliser un sulfure, dont on va tout simplement, dans ce cas, préparer la phase à l'état liquide et injecter la solution dans cette assemblée, cette structure de cathode, pour ensuite faire un traitement sous vide en chauffage et les pressions et presser à froid pour obtenir des composites dans lequel vous allez avoir un mélange, je dirais, homogène d'électrolytes solides, de carbone, de silicium, avec, dans ce cas, une fois de plus, un binder, dont les proportions sont indiquées ici. Et là aussi, eh bien, on peut obtenir les performances indiquées ici, ou, ce qui a remarqué, c'est tout simplement qu'une fois de plus, eh bien, on arrive à faire de tels systèmes, mais avec un sacrifice énorme en termes de capacité par gramme de lithium CO2. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait au niveau des solutions. Alors ça, c'était pas mal de recherches, et finalement, il y a cela 3 ans, il y a un papier qui a fait pas mal de bruit, et qui est finalement sorti, et qui a été, je dirais, une avancée quand même assez considérable dans ce domaine des solutions. C'est un papier d'une chercheuse américaine, Shirley Meng, qui a montré que dans ce cas, eh bien, on peut utiliser tout simplement du silicium microcristallin comme électron négatif. Et ça, c'est relativement intéressant par le fait que finalement, on n'a plus de carbone, et le carbone va montrer pourquoi il n'y a plus de carbone. Dans ce cas également, bon, il y a très peu de polymères, je crois que c'est autour de 1%. Et l'avantage, comme j'avais mentionné auparavant, c'est que le silicium, dans le cas des batteries liquides, eh bien, il y a cette dégradation, je dirais, ce broyage électrochimique qui va créer toujours des interfaces et qui va faire en sorte que l'électrolyte eh bien, va toujours créer cette SEI. Dans ce cas, l'idée était finalement que si on utilise du tout solide, on ne devrait pas créer ces interfaces ou ces couches SEI. Bien, effectivement, les résultats sont indiqués ici. Tout d'abord, dans ce travail, elle montre clairement que ajouter du carbone à l'électrode négative, dans ce cas, est un handicap, qu'on peut voir ici, avec l'apparence d'une capacité, je dirais, lors de la charge, au début de la charge, que je vous avais déjà mentionné auparavant. Par contre, pour convaincre finalement de la stabilité de la SEI, eh bien, vous avez ici les résultats qui sont relativement intéressants, dans lesquels vous avez le premier cycle, le deuxième, et ainsi de suite. Vous voyez que le premier cycle, et là, notez bien, il y a quand même une faible capacité coulombique, puisqu'elle ne travaille qu'à 77%, c'est-à-dire qu'elle perd 23% de capacité dans le premier cycle. Par contre, par la suite, eh bien, vous voyez que l'efficacité coulombique est là. Et ce qu'elle montre, par des études tout simplement, dans ce cas de titrage par chromatographie en phase gazeuse, et bien que sa SEI reste constante en fonction du cyclage. D'où la SEI se forme, et ensuite elle reste constante. Alors ce qui se passe, je dirais, dans ce cas, eh bien, c'est indiqué ici, c'est-à-dire par des photos de microscopie, on voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que vous prenez votre électrode pristine, vous avez dans ce cas une très large porosité, comme indiqué ici. Ensuite, lorsque vous chargez votre système, eh bien, vous allez tout simplement, dans ce cas, eh bien, augmenter bien sûr les dimensions, l'épaisseur. Et ensuite, par contre, lorsque vous déchargez, vous avez une structuration de votre électrode, une structuration colonnaire, qui fait en sorte que les grains de silicium s'agglomèrent et presque sont en train de, finalement, de s'agglomérer ensemble pour former des colonnes ou des piliers. Et grâce à cela, eh bien, ça permet d'avoir une interface dès le départ, et ensuite, il n'y a plus de rafraîchissement des interfaces lors du cyclage. Alors, grâce à cela, eh bien, on peut obtenir, ou elle a pu obtenir, de très bonnes performances, notamment à la densité de courant. Vous pouvez voir ici qu'on peut directement atteindre des densités de courant de 5 mA par cm². Dans le domaine de la température, où ça a été cyclé à des températures de moins 20 degrés C, mais également avec des capacités surfaciques qui sont relativement intéressantes, mais cela à 60 degrés C. D'où le tout bien se solder par tout simplement ces courbes de cyclage, avec une pression qui est notée de 400 MPa lors du premier cycle, et avec, je dirais, 80% de réduction après 500 cycles. Donc voilà, si vous voulez, les travaux qui se font dans ce domaine du silicium. Alors, suite à cela, eh bien, il y a eu d'autres travaux qui ont été relativement intéressants. Alors, travaux intéressants, pour la bonne et simple raison que c'est que cette fois, ils ont eu lieu à l'échelle des couches minces. D'où, dans ce cas, on est en train de regarder des couches nanométriques de silicium qui ont été déposées sur du cuivre, et on regarde en fonction de l'épaisseur ce qui se passe. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a des couches de 90 nanomètres, 180 nanomètres, 160 nanomètres et 900 nanomètres. Et on s'aperçoit, dans ce cas, que plus on va augmenter bien l'épaisseur du silicium, eh bien, plus la performance sera moindre. Bon, il n'y a rien de bien original dans ce travail, car pour la bonne et simple raison, c'est que lorsqu'on va mettre du lithium, eh bien, dans le silicium, il va y avoir une expansion de volume. Et ça veut dire tout simplement que dans ce cas, eh bien, lorsque vous mettez directement votre silicium sur des LZTO, eh bien, ou LZO, excusez-moi, dans ce cas, eh bien, finalement, la force de liaison du silicium avec LZO va être dépassée lorsque vous allez avoir des couches épaisses par l'augmentation de volume. D'où finalement, c'est ce qu'on connaît très bien dans la croissance de films, où on peut garder des matériaux structurés, des matériaux épitaxiés, jusqu'à une certaine épaisseur. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir, je dirais, des performances en cyclage sur ces films couches minces qui sont intéressants. Alors, un travail encore plus poussé, où là, ça a consisté tout simplement à utiliser directement des wafers de silicium, ceux que vous utilisez pour faire les circuits intégrés, et voir comment on pouvait lithier de tels wafers. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce cas, on peut finalement regarder l'orientation, je dirais, de la surface du silicium selon les orientations qui sont 1-0-0, 1-1-0, et ainsi de suite. Et bien sûr, on peut mesurer la diffusivité du lithium dans des différentes interfaces ou dans ces différentes directions cristallographiques, et c'est la direction 1-1-0 qui est la plus propice à cette diffusion du lithium. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir également de très bonnes tenues en cyclage. Et ce qui est intéressant, ce qui se montre dans ce travail, c'est que finalement, si je prends une wafer parfaitement lisse, enfin, comme elle doit être, pour faire des circuits intégrés, ce n'est pas génial. Par contre, si je prends ma wafer et je fais des rainures à la surface, eh bien, je vais pouvoir finalement, dans ce cas, faire des zones d'ancrage pour tout simplement aller avoir de meilleurs contacts avec l'électrolyte. Et dans ce cas, eh bien, on peut obtenir tout simplement de très bonnes tenues en capacité sur de nombreux cycles. Donc ça veut dire que la possibilité de faire de la gravure de silicium pour avoir, je dirais, de très bonnes performances au niveau de matériaux. Mais tout ça, c'est juste élégant, mais c'est tout simplement nul, si je peux dire, au niveau de densité d'énergie, parce qu'on est en train de parler ici de microwatts. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se passe dans ce domaine. Alors, la question, bien sûr, c'est que dans tout ça, eh bien, si vous avez remarqué, dans le travail de Charlie Meng, je vous ai mentionné que l'efficacité coulombique lors du premier cycle n'était que 70%. D'où la question, c'est pas viable. Et comment on peut utiliser le silicium avec une meilleure, je dirais, meilleure efficacité coulombique. D'où il y a deux possibilités. Eh bien, c'est tout simplement contourner la décomposition de l'électrolyte et également contourner le lithium qui reste piégé directement dans le matériau. Et pour faire cela, eh bien, c'est ce qu'on va regarder et ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est tout simplement de prélithier cette électrode de silicium. Et si on prélithie cette électrode de silicium, c'est-à-dire que je vais mettre maintenant du lithium en réservoir, eh bien dans ce cas, je vais pouvoir avoir de meilleures propriétés. Pourquoi ? Parce qu'on aura une meilleure, bien sûr, efficacité coulombique. Ensuite, la conductivité électronique du silicium lithié eh bien, est beaucoup plus importante. La diffusion du lithium est encore beaucoup plus importante, et ainsi de suite. D'où, c'est tout simplement ce qu'on va regarder. Et bien sûr, on va également modifier la dureté du matériau, ce qui permettrait d'avoir tout simplement des contacts et de créer des interfaces bien meilleures. Alors là aussi, je dirais, il y a un travail relativement considérable dans ce domaine avec plusieurs méthodes de prélithiation. Et parmi ces méthodes de prélithiation, eh bien, je vais les énumérer ici, il y a la prélithiation chimique, bon, ce que l'on fait beaucoup, vous êtes tous habitués à faire des réactions avec N-butyllithium pour entrer du lithium dans des composés. Dans ce cas, il faut aller à des potentiels beaucoup plus bas avec le silicium. C'est pour ça qu'on va utiliser directement des solutions de 1 molaire de lithium benzophénone en THF pour tout simplement aller lithier le silicium. Tout ça, c'est une méthode, je dirais, qui est pas des plus simples. Ensuite, une autre méthode, c'est la prélithiation électrochimique. Alors, dans ce cas, c'est tout simplement assembler une batterie et vous la réduisez et vous récupérez votre électrode négative. Et les méthodes, je dirais, les plus poursuivies aujourd'hui, eh bien, sont les méthodes indiquées ici, dans ce cas, on va faire du broyage mécanique d'une électrode de lithium et de silicium pour obtenir les différentes phases lithium X, S, Y. Et enfin, la méthode fortement utilisée, c'est la méthode dans laquelle on va tout simplement mettre du silicium en contact avec du lithium et appliquer une pression, voire céder la température. Donc là aussi, eh bien, c'est tous les travaux qui se font dans ce domaine sur cette prélithiation du silicium. Alors, quelques exemples et quelques résultats. Alors, l'exemple ici est indiqué ici. C'est l'exemple où, dans ce cas, on va utiliser, comme vous pouvez voir ici, de la poudre, dans ce cas, de lithium, qui est, comme tout le monde le sait, eh bien, enrobé de carbonate de lithium, qu'on va tout simplement aller presser, dans ce cas, eh bien, sur l'électrode de silicium pour, tout simplement, faire réagir et obtenir l'alliage. Et vous voyez ici, c'est que si j'augmente la quantité, tout simplement, de lithium, eh bien, je vais, dans ce cas, qui n'est pas une surprise, eh bien, augmenter l'efficacité coulombique durant le premier cycle. Et grâce à cela, eh bien, voilà, voilà, dans ce cas, les différentes composites, dans ce cas, les composites graphite et silicium, qui ont été préparées avec cet ajout de lithium. Et on obtient, je dirais, les capacités indiquées ici, avec les différences mentionnées. Et le résultat le plus spectaculaire, qui serait intéressant de reproduire pour savoir s'il est vraiment vrai, est ce résultat ici, qui a été, je dirais, rapporté il y a de cela quelques mois, où, grâce à cette approche, eh bien, ils ont pu obtenir, sous des pressions de 120 MPa à 55 degrés, ils ont pu cycler des batteries, bien sûr en laboratoire, pour 5000 cycles, voire, comme indiqué ici, pour 30 000 cycles, avec des régimes de VNC conventionnés. Donc voilà directement, je dirais, ce qui se fait dans ce domaine, ou l'état de l'art dans ce domaine. De nouveau, c'est des résultats intéressants, mais à voir, et regardez les compositions ici, hein, là aussi, c'est une électrode composite qui contient du silicium, du carbone, et également un polymère qui est le PTFE. Okay. Enfin, des pures électrodes de silicium, dans ce cas, eh bien, la méthode de broyage, où on prépare ces différentes composites par broyage, et vous voyez ici finalement l'avantage en termes de énergie coulombique lors directement du premier cycle, et là aussi avec des avantages au niveau de rétention en capacité. Et c'est un peu ce qu'on fait ici également au laboratoire, où en utilisant maintenant la même technique, mais en utilisant, je dirais, une couche à l'interface, eh bien on peut maintenant obtenir un grand nombre de cycles, mais là aussi, eh bien, je dirais, ça va 200 tics, 300 tics, mais on termine toujours à avoir des problèmes dendritiques. Donc voilà cet aspect sur le silicium. Et enfin, Shirley Menck, qui a été la première à rapporter le silicium, eh bien, elle s'est aperçue de cette limitation et elle a montré finalement la prolifération d'anodes avec 100% de silicium. Et si on regarde cela, eh bien, ça a été fait une fois de plus par pressage de la poudre de lithium sur dans ce cas, eh bien, une feuille de silicium, pour obtenir les différentes phases lithium-silicium, avec, là aussi, eh bien, une augmentation de l'efficacité coulombique lors du premier cycle et des tenues en cyclage conventionnel. Donc voilà, si vous voulez, un peu tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine au niveau de l'électronégative, avec du silicium, avec des composites de graphite et silicium, et ainsi de suite. D'où cela va me mener finalement à la dernière partie de ce cours, comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si maintenant je n'utilise plus de silicium, j'utilise plus de carbone et ou j'utilise directement aucune anode contenant du lithium à la négative. D'où, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, où on va passer totalement à l'opposé sans utiliser finalement de négatif. Vous voyez le système classique lithium qu'on a commencé. Ensuite, en ce cas, il y en a le lithium est à l'anode avec courant collecteur. Et maintenant, on va avoir seulement un collecteur de courant. Et tout cela, bien sûr, ça présente des avantages considérables au niveau de la densité gravimétrique, car on passerait à des densités gravimétriques jusqu'à 500 watts-heure par kilogramme, soit volumétriques encore plus importants, et ainsi de suite. Mais là aussi, eh bien, il y a encore de nombreux challenges pour réussir dans cette voie. Alors cette voie, elle n'est pas nouvelle en soi, puisqu'elle a été, je dirais, une fois de plus, eh bien, développé, étudié dans le cas des systèmes liquides lithium-ion. Et dans le cas des systèmes liquides lithium-ion, certainement le chercheur qui a le plus travaillé dans ce domaine est Jeff Dan, qui, comme vous pouvez voir ici, a tenté finalement de caractériser ses électrodes, de fabriquer ses batteries sans lithium grâce à des innovations au niveau des électrolytes. Et là, grâce au niveau des électrolytes, différentes compositions, différentes sels par des mélanges, ainsi de suite, eh bien, il a obtenu, je dirais, des systèmes qui pouvaient cycler aux alentours de 100 fois. Alors si je monte à cette courbe, c'est pour finalement attirer votre attention sur ce problème d'efficacité coulombique. Et cette efficacité coulombique, eh bien, elle est, je dirais, critique pour les applications pratiques. Et en effet, cette courbe, pour ceux qui travaillent dans le domaine, gardez-la à l'esprit. Regardez tout simplement, lorsqu'on dit qu'on a une bonne efficacité coulombique. Si c'est 99,9%, ça veut dire que vous pourrez cycler pour 350 cycles avant d'atteindre les 80%. D'où, de nouveau, cette efficacité coulombique, c'est vraiment un critère très important. Généralement, quand on trace des courbes dans les publications, on met des échelles, je dirais, très contractées, on dit c'est 100%. Mais, regardez les différences qu'il y a ici, elles sont, je dirais, très très importantes pour savoir la validité d'un système et, je dirais, la stabilité d'un électrolyte. Donc, par conséquent, eh bien, dans le cas du tout solide, il va falloir jouer le même jeu, c'est-à-dire voir si on peut jouer avec les électrolytes et les additifs. Alors bien sûr, les additifs, lorsqu'on est dans un liquide, il y a beaucoup d'additifs organiques qu'on peut ajouter. Lorsqu'on est dans un tout solide, ça va être une fois de plus un jeu totalement différent. Quels vont être ces additifs? Alors pour ce faire, eh bien, on va tout simplement regarder, je dirais, l'approche du problème. Et ici, je voudrais ramener un papier, qui est un papier, je dirais, qui est relativement intéressant, qui est un papier de 2016, qui finalement contenait ou contient beaucoup d'informations. Ce papier, qu'est-ce qu'il vous indique? Ce n'est rien d'autre que le dépôt de lithium sur différents substrats, différents éléments chimiques, qui forment une solubilité avec le lithium, ou non, ou qui forment un alliage avec le lithium. Et si je prends par exemple le cas du nickel ou du cuivre, dont on sait qu'il ne s'allie pas avec le lithium, eh bien si je regarde cette mesure, qui n'est rien d'autre qu'une mesure d'électrodéposition, vous avez la cellule qui a été utilisée avec une référence, et vous apercevez que dans ce cas, le potentiel, eh bien, vous avez une chute drastique du potentiel, pour ensuite, le potentiel remonte pour devenir plat. Et ça, c'est tout simplement rien d'autre que la nucléation, ou la surtension de nucléation, pour le dépôt, tout simplement, du lithium sur le cuivre. Et cette différence, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'énergie nécessaire pour franchir la barrière thermodynamique entre le lithium et le cuivre. Par contre, si je regarde dans le cas de l'or, où maintenant j'ai tout simplement un composé d'intercalation ou un alliage, vous apercevez que je n'ai plus cette chute tétrafique de potentiel. Et encore, ce qui est intéressant, c'est le cas de l'argent, du magnésium, où là, vous voyez que j'ai tout simplement un faible potentiel. Ça veut dire qu'en ce compte-là, pour ces deux métaux, il y a une solubilité du lithium dans soit bien l'argent ou le magnésium. Et bien, c'est la raison pour laquelle on va voir finalement cet intérêt grandissant pour l'utilisation de ces métaux comme électrodes négatives. Et en effet, eh bien, si on regarde les travaux récents, ou un travail qui est plus récent d'ailleurs qu'un travail qui a été une fois de plus un papier phare dans le domaine il y a cela 3 ou 4 ans, ça a été un papier de la compagnie Samsung, où dans ce cas, eh bien, ils n'ont pas utilisé d'électrodes négatives de lithium, mais ils ont utilisé tout simplement dans ce cas, eh bien, une composite avec des particules nanométriques d'argent et de carbone. Vous avez dans ce cas la structure, tout simplement, de la batterie qu'ils ont assemblée, vous voyez les différentes composantes, et vous avez ici ce qui se passe. Et ce qui se passe est relativement intéressant. Vous avez dans le cas l'électrode pristine, où on voit très bien directement la couche argent-carbone, et ensuite, si vous faites une charge, eh bien, vous apercevez que le lithium va aller se déposer, sur cette image ici, en dessous de ces particules d'argent. C'est-à-dire que vous allez dans ce cas, eh bien, tout simplement, pas avoir le contact du lithium avec tout simplement l'électrolyte. Et ensuite, lors du cyclage, eh bien, on va pouvoir maintenir la même, je dirais, répartition et faire en sorte que ces systèmes vont pouvoir cycler pas mal de temps. Et en effet, lorsqu'ils ont assemblé de telles cellules, vous voyez qu'ici, c'est quand même des cellules relativement correctes, on est en train de parler de 112 mm et 67 mm large, vous avez la structure directement de ces cellules, et voilà les performances qui ont été rapportées, et je dirais, à ce jour, c'est certainement encore, un des résultats les plus impressionnants qui a été obtenu dans le tout solide, avec dans ce cas, notez quand même, une pression isostatique pour bien s'assurer tout simplement du contact entre les différentes couches, notamment au niveau de l'assemblage. Et ensuite, au niveau du cyclage, si le cyclage a des pressions relativement faibles, 2 mégapascales et à 60 degrés C. Alors bien sûr, dans ce cas, eh bien, il fallait comprendre un peu ce qui se passe, d'où, là il y a un papier que je vais vous citer une fois de plus, finalement, c'est un papier qui, pour faire, je dirais, pour être intéressant, mais qui pour moi est totalement irrelevant, parce que dans le cas de la manip de Samsung, c'était tout simplement du carbone, et dans ce cas, c'est un papier de Peter Wood avec du graphite, où là, vous avez des manips classiques, une cellule dans laquelle il regarde exactement tout ce qui se passe lorsqu'on fait la lithiation. Et sans aucune surprise, vous trouvez la lithiation du graphite, vous trouvez la lithiation de l'argent, et ainsi de suite. Et, bien sûr, vous faites la recharge, vous avez tout simplement la reversibilité dans lequel, tout simplement, vous allez retirer le lithium et revenir à vos matériaux de départ. Donc tout cela, si vous voulez, montre finalement qu'effectivement, lorsque vous mettez du graphite, c'est un système qui est reversible, mais qui en aurait pensé autrement. Donc voilà. Alors bien sûr, cette technique ou ces différentes approches pour améliorer cette interface, eh bien, elles vont se poursuivre, je dirais, elles se poursuivent actuellement avec, là aussi, de nombreuses alternatives et de nombreux essais. Alors je vais tout simplement vous en illustrer certains. Alors un, dans lequel, dans ce cas, alors ça va être toujours basé sur le même concept, où on va, dans ce cas, eh bien, essayer, une fois de plus, de créer ces couches protectrices, si je peux dire, dans les différents domaines. Et ici, vous avez tout simplement un fil de cuivre, dans lequel on va tout simplement déposer eh bien, la phase sulfurée. C'est-à-dire qu'on prend un fil de cuivre, on va le mettre dans une atmosphère de tellurium à 600 degrés pour créer la phase Cu2T. Et ensuite, eh bien, on va dans ce cas réduire électrochimiquement, c'est-à-dire faire cette réaction de conversion pour créer le composé lithium-2TE plus cuivre. Et ce composé eh bien, va tout simplement permettre une très bonne adhésion du lithium à la surface, tout simplement ici. Et grâce à cela, on peut, une fois de plus, je dirais, modifier la mouillabilité entre, tout simplement, l'électrolyte et le lithium, comme mentionné ici. Et vous avez ici, tout simplement, deux morceaux de lithium, comme indiqué à ce point. Les performances bien obtenues, bon, ici, sont drastiques, entre, finalement, l'approche dans laquelle on a déposé, je dirais, cette couche de lithium de TU, ou TU de CU, comparée aux cas différents. Ensuite, eh bien, il y a un exemple plus récent qui je crois date de 2024, ou maintenant, eh bien, des chercheurs ont utilisé du magnésium et de l'argent et ont essayé de comparer finalement quels étaient les bienfaits de chacun de ces deux métaux dans le cas du tout solide. Alors tout cela a été fait grâce à ces configurations dans lesquelles on utilise dans ce cas une argirodite qui a une connectivité autour de 10 millisiemens par centimètre avec dans un cas des particules de magnésium et dans l'autre cas des particules d'argent. Et ensuite, eh bien, on va lithier ces matériaux, c'est-à-dire dans ce compte-là, on va utiliser le lithium qui est à l'électrode positive pour directement eh bien, lithier ces matériaux, et on va obtenir dans ce cas eh bien, ces photos, je dirais, de microscopie électronique, dans lesquelles vous voyez que dans ce cas, eh bien, dans le cas du magnésium, vous allez avoir finalement une couche continue au-dessus de l'électrolyte, c'est-à-dire un mélange intime de particules de magnésium et de lithium. Alors que dans le cas de l'argent, eh bien vous avez ici une séparation où on voit très bien, je dirais, le composé ou la couche en argent ici, avec ici le lithium. Okay. D'où on voit finalement qu'il y a deux mécanismes différents. Et ce qui est intéressant, c'est que le magnésium est assez particulier, parce que les chercheurs ont fait les expériences avec d'autres alliages, notamment le bismuth et l'étain. Et dans le cas du bismuth et de l'étain, on a également cette séparation au niveau, je dirais, des différentes couches. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette séparation et quelle en est l'origine ? Bien, l'origine, elle n'a rien de particulier, elle va se trouver tout simplement dans le diagramme de phase de ces deux composés ou de ces deux alliages, c'est-à-dire lorsque je vais former directement lithium-magnésium ou lithium-argent. Si je regarde le diagramme de phase, je m'aperçois que dans ce cas, eh bien, j'ai tout simplement une phase alpha, une phase bêta, avec ici un domaine biphasé, et dans ce cas, je vais avoir une cinétique très lente, et la phase alpha aura une cinétique très lente. Alors que dans le cas de l'argent, vous avez à la phase alpha une phase bêta, où j'ai juste directement une phase définie, et ensuite je passe à une solution solide à la phase gamma. Et dans ce cas, eh bien, la transition va se faire alpha-gamma, c'est une transition qui sera rapide. D'où, ça veut dire que j'ai un domaine qui va se comporter avec une cinétique relativement lente, une cinétique rapide. Et c'est ça qui va jouer sur la morphologie, finalement, des couches que j'obtiens. Alors dans un cas, eh bien, puisque la cinétique sera relativement lente, eh bien, j'aurai une particule avec un gradient de concentration, et ce gradient de concentration, ça va être finalement la force, je dirais, qui va véhiculer eh bien, le lithium à la surface, alors que dans le cas de l'argent, j'aurai une intercalation relativement rapide, et ensuite, je vais déposer tout simplement l'argent en dessous directement des particules. Donc vous avez ici les deux morphologies différentes qui peuvent être obtenues. Alors tout cela, eh bien, on peut directement regarder dans des batteries pratiques. Et dans ces batteries, ce qu'on va utiliser dans ce cas, eh bien, c'est une électrode positive NMC. Et ici, vous voyez la différence entre, je dirais, ces deux types, avec, dans ce cas, du magnésium. Et dans ce cas, pour lutter contre l'efficacité coulombique, les chercheurs ont pris l'astuce d'utiliser un sel sacrificiel, c'est-à-dire du lithium 3N, qui va tout simplement se décomposer et vous donner du lithium pour réservoir. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, les travaux qui se font dans ce domaine. Et enfin, pour terminer, eh bien, deux études récentes, une fois de plus, dans le même esprit, sur la possibilité ou la volonté d'aller mettre une couche tampon à cette interface. Alors là aussi, c'est intéressant de regarder parce que finalement, eh bien, la première idée de cela, elle date de 5 ou 6 ans, et elle refait surface aujourd'hui. Ça, c'est les travaux de Linda Nazar, qui, il y a 5 ou 6 ans de ça, mais un plus, a montré tout simplement que si je prends, eh bien, je tire à profit des réactions de conversion, et si je prends finalement du lithium, que je plonge dans une solution de chlorure de métaux, dans THF, eh bien, je vais avoir tout simplement cette réaction de conversion avec dépôt d'une phase M, Cl3, qui va ensuite se transformer en lithium XM. C'est-à-dire que je vais faire un alliage in situ à la surface de mon lithium. Et ça, eh bien, c'est très intéressant, puisqu'ensuite, si vous faites la lithiation, vous apercevez que la lithiation se fait en dessous de cet alliage. Et ça, c'est des résultats qui ont été appliqués à l'époque, bon, dans les batteries, je dirais, liquides, avec, toujours pareil, c'est tout simplement ces courbes classiques pour déterminer la densité de courant critique. Et vous voyez ici, directement, l'amélioration entre finalement avec ou sans directement dépôt à l'interface d'un alliage. Et tout cela, bien sûr, ça s'est fait. C'est Linda Nazar qui a rapporté ça il y a 6-7 ans, mais Steve Visco a fait ça depuis plus de 15 ans en utilisant directement SU3N. Et d'ailleurs, c'est une très grande astuce car ça a été le premier à montrer que vous pouvez mettre du lithium dans de l'eau, vous n'avez rien qui se passe, parce que tout simplement, il avait mis cette protection élastique de SU3N, je dirais, à la surface. D'où ça s'est fait. Et alors, bien sûr, comme nouveauté, tout récemment, eh bien, c'est les travaux qui ont été réalisés où les chercheurs ont utilisé la même idée, le même concept, en utilisant cette fois eh bien, du fluorure de magnésium pour, comme vous pouvez voir ici, pour avoir une réaction de conversion ou du fluorure d'argent, faire une réaction de conversion pour créer, dans ce cas, une fois de plus, eh bien, l'or de la lithiation. Le dépôt de lithium en dessous, tout simplement, de la surface des particules d'argent, une fois de plus. Et là aussi, eh bien, on peut obtenir des conditions en cyclage beaucoup plus importantes, et c'est les résultats qui viennent d'être publiés dans ce domaine. Vous voyez là aussi, eh bien, on va utiliser de nouveau ces réactions de conversion qu'on a découvertes en 2000, eh bien, 20 ans après, on y revient dessus pour essayer de, je dirais, dessiner, de concevoir des interfaces intelligentes pour faire en sorte d'améliorer l'efficacité coulombique à l'interface du lithium, diminuer les résistances de transport, et ainsi de suite. Et cela bien, terminera, je dirais, ce cours, et certainement introduira très bien le prochain, qui va être dédié aux fluorures. D'où, vous allez voir que les fluorures peuvent également être intéressants pour faire des traitements de surface, et ainsi de suite. D'où, voilà, je vous remercie infiniment.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.